CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un magazine d'actualité aujourd'hui sur une conférence à propos de pigeonniers ce vendredi, une conférence organisée par la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, conférence in English please. On recevra Colin Duncan Taylor dans la deuxième partie de cette édition. Avant, on chausse ses baskets, on fait nos étirements en prévision de ce dimanche pour la Sapiaken.
CFM.
Première partie de ce MAG du Tarn-et-Garonne direction Sapiac pour la Sapiaken qui s'annonce pour ce dimanche la 14e édition de cette course. Nous avons trois parcours qui nous seront proposés, 7 km 14 ou 21. D'ailleurs, il y a aussi une course pour les marcheurs ou encore la Kiki course. Là, 1100 mètres pour les 6 à 12 ans. Le programme nous est dévoilé par Michel Charles, la vice-présidente de la maison de quartier de Sapiac. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Bonjour.
14e édition, donc, pour cette Sapiaken, vous maintenez le cap, hein?
Alors, nous maintenons le cap après une année de... Nous avons été obligés de l'annuler l'an dernier. Nous faisons cette course depuis 2007. Cette année, ça aurait été la 15e édition, mais donc l'an dernier, après l'annulation, voilà, nous faisons la 14e que nous aurions dû faire l'an dernier. Oui, c'est vrai, ça fait maintenant 15 ans que nous sommes sur cette course. Tout à fait.
Une course entre Tescou, Tarn et Tescou.
Très important pour nous, c'est une course qui fête, là, pour nous, cette course a un sens très important. Elle fête la fin de nos soucis à Sapiac, les soucis d'inondation. Le Tarn, le Tescou inondent nos quartiers, notre quartier notamment, nos habitants du quartier. Et cette course fête l'achèvement des digues de protection du quartier. Lorsqu'elles ont été achevées, ces digues, lorsqu'elles ont été construites, nous nous sommes dit qu'il faut faire une fête. Il faut faire une fête autour de ces deux rivières qui ne doivent plus nous empoisonner. Ces deux rivières doivent être... On doit fêter le fait qu'elles soient maintenant... qu'elles nous protègent. Donc, nous, depuis 15 ans, nous courons. Nous avons eu l'idée de faire cette course. Le 7, 14 et 21, c'est un semi-marathon aussi qui est... voilà, destiné, on fait tous la fête. Voilà.
Avec cette année, une nouveauté, une exception, la course n'est pas payante. Par contre, il y a une boîte à dons qui est mise en place.
Cette année, la course est gratuite, alors qu'elle ne l'était pas les autres années. Mais après ces deux années Covid, je dirais, nous avons eu du mal déjà, dans un premier temps, d'aller voir nos sponsors pour les solliciter, avec encore demander de l'argent. Nous avons eu du mal à demander aux coureurs de l'argent. Bon, on a dit on va faire une course gratuite, on sait l'organiser, on va l'organiser comme d'habitude. Voilà, l'association sera toute là avec tous ses bénévoles, nous avons 70 bénévoles, et nous mettrons des boîtes à dons, puisque chaque année, on remettait 1,50€ par coureur au Resto du Cœur, depuis des années, depuis toujours. 1,50€ par coureur au resto. Et cette année, il n'y aura plus l'argent déposé par les coureurs. Donc, on a eu l'idée, au moment où on leur remet le dossard, après validation de leur passe sanitaire, on leur donne un dossard, il y aura des boîtes à dons. Et s'ils veulent mettre ce qu'ils veulent dans la boîte, ça nous permettra de donner une somme à peu près correcte, on espère, comme les autres années, au Resto du Cœur. Voilà.
Alors, il faut s'inscrire avant vendredi soir, je crois.
Oui. Avant vendredi, si possible, parce qu'on a souhaité cela aussi. On a ce pass sanitaire, cette validation de ce pass à l'entrée de la course, du site. Ça va nous prendre du temps, ça nous prendra des bénévoles pour faire ça. Donc peut-être moins de bénévoles pour inscrire ce jour-là. On voudrait que vraiment les coureurs fassent jouent le jeu, viennent avant vendredi, avant samedi, s'ils veulent, le matin, on sera encore, il y aura peut-être une permanence à la maison de quartier. Mais on a marqué vendredi, il faudrait absolument venir avant. Ça serait beaucoup mieux pour nous, bien sûr.
Et comment on fait pour s'inscrire?
Les inscriptions se font. Les gens peuvent trouver tous les formulaires sur le Facebook La Sapiaken. Nous avons une page, enfin un compte Facebook La Sapiaken, un compte Facebook également Asso Sapiac. Sur ces deux comptes Facebook, ils trouveront le nécessaire, les formulaires et autres. Ils peuvent aussi appeler la maison de quartier. Nous avons une secrétaire tous les jours de la semaine. Je donne le numéro, hein, c'est le 05 63 91 32 95. Et puis, ils peuvent nous écrire par mail asso.sapiac@wanadoo.fr. Voilà, on leur donne plusieurs moyens.
Pour,
voilà.
pour donc cette course, la 14e édition de la Sapiaken, organisée, donc vous le disiez, par l'association des habitants de Sapiac. Vous organisez par ailleurs plein d'expositions, des repas de quartier, des vides-greniers, feu de la Saint-Jean, mais aussi de l'accompagnement à la scolarité.
Alors nous faisons beaucoup de choses depuis des années. Cette association a 40 ans. Elle est née en 82, justement au moment des inondations de ce quartier qui avait été inondé à plusieurs reprises. C'est un groupe d'habitants qui a voulu créer une association pour faire quelque chose pour les habitants, pour que justement naissent ces digues de protection un jour ou l'autre. Et elles sont nées, vous voyez, grâce à eux. Et donc cette association qui est ancienne fait depuis beaucoup de choses. Depuis 2016, nous sommes également espace de vie sociale. La CAF nous a donné cet agrément qui nous honore énormément. Nous sommes espace de vie sociale. Et donc, nous proposons à tous les habitants de Montauban et du quartier et de Montauban et d'ailleurs, beaucoup de choses, du tricot, de la couture, de l'informatique, de la gymnastique, de l'apprentissage du français, de la chorale, de la peinture sur porcelaine, des jeux de cartes. Je vais sûrement en oublier tellement que nous faisons de choses. Et puis, des animations de quartier, des feux de Seine, le feu de Saint-Jean, la Coupe des Rois, de vide-grenier, une journée pour le Téléthon, où nous remettons pas mal d'argent d'ailleurs au Téléthon. Nous faisons quand même énormément d'activités et cet accompagnement à la scolarité que nous faisons depuis des années. Alors que quand je dis des années, je suis entre 20 et 25 ans, donc c'est énorme. 25 enfants de l'école Hugues Panassier du quartier qui viennent tous les soirs. Alors, par demi-groupe, hein, nous avons environ 12 enfants qui viennent tous les soirs ou faire de l'aide aux devoirs, de l'apprentissage, un accompagnement scolaire ou bien du cirque. Mmh. Une fois, ils viennent pour les devoirs, une fois, ou pour en tout cas un suivi scolaire. Et le deuxième soir, ils viennent pour du cirque avec l'association La Boîte à Malice. Et ça, on fait ça depuis des années avec des bénévoles du quartier, des gens retraités, qui vont les chercher à l'école, qui les aident pour les devoirs. Il y a un très fort lien intergénérationnel que l'on a souhaité créer depuis des années et qui perdure.
Et ça, vous l'avez dit, grâce à vos 70 bénévoles.
Alors, les 70 bénévoles, nous les avons sur la Sapiaken. Parce que là, c'est un énorme jour, ce jour-là de septembre où nous faisons cette course, il nous faut énormément de bénévoles. L'accompagnement à la scolarité, nous avons autour de nous 10 bénévoles qui, tous les soirs, à tour de rôle, vont chercher les enfants, les aident aux devoirs. Il y a un volant de 10 bénévoles qui sont là, la semaine, tout le temps, plus ou moins. Vous comprenez, le mardi, c'est monsieur Untel, le mercredi, c'est madame, ou le jeudi, c'est madame Untel. Mais on essaie tout le temps, il y a un volant de 2 bénévoles qui encadrent notre secrétaire animatrice, qui est là tous les jours de la semaine, à part le mercredi.
Alors là, j'imagine que pour vous contacter, pour vous confier nos enfants, pour du cirque, et pour l'accompagnement à la scolarité, il ne faut pas taper la Sapiaken dans un moteur de recherche.
Et on a cette page, on a ce compte Facebook, la Sapiaken, pour la course. Ça, c'est les coureurs qui, après tout, veulent voir des choses afférentes plutôt à la course. Sinon, on a ce compte Facebook Asso Sapiac, sur lequel on voit et nos photos, les photos des petits, les photos de nos ateliers couture, tricot, gymnastique. On a sur plutôt le compte Facebook Asso Sapiac. Mais aussi, nous avons un site. En tapant Asso Sapiac, et sur le site Mon Site, les gens qui n'ont pas de compte Facebook verront aussi énormément de choses.
Sinon, les enfants sont aussi largement invités à venir donc ce dimanche pour la Sapiaken. Vous avez mis la course.
Alors, oui, tous les enfants sont... Alors, bien sûr, tous les enfants des écoles, de l'école avec laquelle nous travaillons, c'est l'école Hugues Panassier de Sapiac, mais toutes les écoles de partout viennent chaque année. Nous avons à peu près une cinquantaine d'enfants qui viennent. Nous avons une animation McDo après la course qui leur fait sculpter des ballons, qui les maquille parfois. Je ne sais pas cette année s'ils pourront le faire avec les problèmes de Covid, mais ils feront sculpter des ballons. Il y a un petit goûter qui leur est servi par McDo.
Revigorant après une course.
Ils ont un petit beignet, ils ont une petite boisson, ils ont une médaille, un diplôme. Ils partent avec le diplôme quand même. Mais...
Bon, j'espère que ce n'est pas un diplôme McDo quand même.
Non, mais c'est un diplôme de l'association de Sapiac. Alors là, par contre, on y a tenu. Mais...
Pour la 14e édition donc, de cette course, on le disait, 7, 14 ou 21 km entre Tarn et Tescourt. Donc pour fêter la construction de ces digues, vous nous le disiez, on suit les rivières, ça doit être le paysage, doit être tout à fait charmant.
Voilà, le dénivelé est pratiquement... Il n'y a pas de dénivelé, je dirais, le parcours est loin, puisque on est au bord d'une rivière. Hein. Et c'est joli, on passe d'une rivière, la grosse rivière, à la plus petite, par des petits... Il y a un passage sur route, puisqu'on est obligé de rejoindre à un moment donné le Tescou, qui est plus petit, le petit affluent du Tarn. Mais après, on est... lorsqu'on est au bord des rivières, les coureurs le disent tous, c'est très joli, c'est sous les arbres, c'est ombragé... On voit les canards et autres. On est au bord du Tarn et du Tescou. C'est vrai.
Et cette année, donc, la course est gratuite, mais les dons que les auditeurs pourront faire en courant seront donc reversés pour les Restos du Cœur et non pas au McDo. C'est ce dimanche.
Non, voilà, j'aurais peut-être pas dû le dire. On est tellement heureux. Les enfants sont heureux de pouvoir jouer avec eux, d'être dans cette ambiance aussi McDo. Donc, on les laisse animer notre course et on est très, très animer la course enfant à l'issue de leur course enfant. Et on est content de les avoir. Ça nous fait très plaisir.
Cette Sapiac est organisée par l'association donc, des habitants de Sapiac. Michel Charles, vous en êtes la présidente. Je vous propose de nous redire le numéro de téléphone pour vous contacter, pour s'inscrire à la course.
Je ne suis pas la vice-présidente. Je suis la vice-présidente. Oui. Voilà, nous sommes tout un bureau de personnes très motivées. Je pense notamment à Marie-Christine et Jean-Michel qui est le président et tous les autres. Je pense à Mehdi, je pense à Daniel, et tous les autres. Nous sommes des gens très motivés depuis des années. On travaille ensemble.
Ah ben on voit ça, ouais, avec le nombre de choses que vous organisez.
Depuis des années, c'est pour ça qu'on essaie de faire des choses pour les habitants de Sapiac et de Montauban qui viennent maintenant de partout.
Voilà. Michel, est-ce que vous pouvez nous redonner le numéro de téléphone pour s'inscrire à la Sapiacaine?
05 63 91 32 95.
Sinon, rendez-vous sur Facebook en tapant la Sapiacaine dans un moteur de recherche.
Ouais, ce Sapiac, voilà.
Et puis, à ce dimanche, merci beaucoup, Michel Charles.
Tout à fait, merci. Merci à vous aussi, au revoir.
Et la suite de ce Mag du Tarn-et-Garonne après la musique à propos d'une conférence sur les pigeonniers, conférence en anglais proposée par la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin ce vendredi.
Il y avait dans le ciel une lumière éternelle, la peur au fond de moi, une lueur dans tes yeux, assez d'amour pour deux. Je sais maintenant pourquoi. Oh, ce fut facile, un battement de cils, et nous ne faisions plus qu'un. Désormais, quand la pluie me réveille la nuit, je veille jusqu'au matin. Choses qui rassurent ne me font plus de bien. Est-ce le manque de sommeil ou la drogue en bouteille? Je ne suis plus sûr de rien. Partout il me suit, mon pire ennemi. Aura-t-il raison de moi? Une chose est sûre, cette vie ou futur, tu ne seras plus jamais à moi. Je me souviens de tout, de l'innocence suivie par l'enfer. Je me souviens surtout que nous avions quitté. passe d'un instant à l'éclair.
CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Deuxième partie de ce MAG du Tarn-et-Garonne, direction Saint-Antonin-Noble-Val, avec au programme de ce vendredi une conférence organisée par la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin sur les pigeonniers d'ici et d'ailleurs, une conférence en anglais qui sera proposée par Colin Duncan Taylor. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes auteur dans la région depuis une vingtaine d'années.
Oui, c'est ça, oui.
Et vous avez proposé déjà deux livres, un notamment autour de la gastronomie, soupe à l'ail rose, des viandes de cochon noir gascon, oui. Du cassoulet, du fromage, des caves de Roquefort. Oui. Un livre donc autour de la gastronomie qui prouve que vous êtes quand même bien attaché depuis 20 ans au terroir du sud. Hein. On est dans l'Occitanie. Vous vous intéressez donc aussi au paysage. C'est pour ça qu'on va parler de pigeonnier ce vendredi.
Oui.
Alors, vous n'allez pas parler architecture.
Non, en fait, parce que la raison pour parler des pigeonniers, c'est parce que à l'époque, la consommation de pigeons était vraiment importante pour la gastronomie en France et en Europe, en fait.
Alors, on revient à la nourriture, là, mais un pigeonnier comme garde-manger vivant, vous nous le dites.
Oui, c'est ça exactement, parce que, en fait, le pigeon a été mangé plutôt par les nobles, par les rois, par les reines, et on a commencé de faire une production presque industrielle, parce que les grands pigeonniers, il y avait jusqu'à 10 000 oiseaux dedans, peut-être. Alors, c'était vraiment une production de viande fraîche, très important au début pour les nobles et plus tard après la révolution c'était plus accessible pour les agriculteurs, les paysans.
Une usine à engrais aussi, les pigeonniers.
Oui, c'est ça, il y avait les trois choses. Il y avait, la plus importante probablement c'était la viande. Mais quand même, il y avait les personnes qui construisaient les pigeonniers, principalement pour l'engrais, comme vous avez dit. Parce que à cette époque, avant, parce que l'engrais artificiel, chimique, a été inventé fin du 19e siècle. Alors avant ça, l'engrais de pigeon, la fiente, c'était le meilleur, on a dit. Tout le monde depuis Pliny, à l'époque des Romains, les comtes de Toulouse, ils ont passé les lois qui insistaient sur l'utilisation de fumier de pigeon comme engrais pour les vignes autour de Gaillac. Mm-hmm. À cette époque, c'était obligatoire. Alors, on a bien compris que le fumier de pigeon, c'était vraiment important.
Et les pigeons et les pigeonniers aussi, du coup. Et là où je me suis interrogée en lisant un peu la présentation de votre conférence donc de ce vendredi sur le site de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, les pigeonniers comme instigateurs de la Révolution et du contraceptif surdimensionné.
Ah oui, comment ça avec la Révolution? Oui, parce que, surtout dans le nord de la France, le pigeonnier s'était réservé pour les nobles. Et en fait, à partir du XVIIe siècle, c'était même interdit pour un évêque, par exemple, d'avoir un pigeonnier. C'était vraiment pour les nobles. Mm-hmm. Dans le sud, c'était plutôt pour les riches. Alors, on dit souvent que le propriétaire d'un pigeonnier, s'il y a, par exemple, 200 nids dans le pigeonnier, il fallait être propriétaire de 200 hectares de terrain. Alors, c'était vraiment limité pour les riches. Mais à cause de ça, parce que les pigeons se promenaient comme ils voulaient, et évidemment, les pigeons mangeaient tous les graines, tous les légumes des fermes, des alentours, en fait. Et les paysans, c'était interdit pour chasser les pigeons. Alors, en fait, c'était le peuple qui souffrait. Et à cause de ça, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment détesté pour les paysans. C'était pour ça que pendant la Révolution, il y avait la nuit du 4 août 1789, quand tous les députés de l'Assemblée nationale, ils ont passé une série de décrets. Et le deuxième article, c'était pour démocratiser le pigeonnier, en fait.
Et le contraceptif, alors?
Pardon?
Et le contraceptif, alors?
Ah oui, le contraceptif, c'est parce que à la fin de... pendant les années 90, il y avait la société pour la protection des oiseaux urbains, de la ville en France. Et en fait, ils voulaient chercher une façon de contrôler la population des pigeons sans les chasser, sans les tuer, sans les empoisonner. Alors, ils ont créé ces pigeonniers modernes. Et l'idée est que les pigeons pondent les œufs dedans. Et une fois par semaine, à peu près, il y a quelqu'un qui entre dans le pigeonnier avec les gants pour ne laisser pas une odeur. Et la personne prend chaque œuf, donne un petit coup de main, le remuer un peu, pour les manger, la jaune et... Oui, pour la jaune et le blanc dans l'œuf. Et comme ça, l'embryo ne peut pas se développer. Mm-hmm. Alors l'œuf est stérilisé et on remplace l'œuf et le pigeon continue de couver. Et c'est comme ça. Alors comme ça, on peut contrôler sans tuer la population des pigeons. Et maintenant, il y a les pigeonniers comme ça à Paris, à Grenoble, à Marseille, à Villeneuve-sur-Lot, par exemple. Dans de plus en plus de villes, il y a ce système pour gérer la population.
Autour des pigeonniers, cette conférence proposée en anglais par vous-même, Colin Duncan oui. Taylor, est invitée sur une invitation de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin. Alors déjà, félicitations, vous parlez super bien français. La conférence donc sera donnée en anglais, mais retraduite après à retrouver sur le site de la SAFSA, donc safsa.net. Colin Duncan Taylor, en quelques mots, donc vous êtes tout à fait anglais, en France depuis 20 ans. Votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à sillonner comme ça les paysages d'Occitanie et à écrire des livres à ce propos?
J'étais toujours passionné par le patrimoine d'ici. J'ai voyagé beaucoup en France et dans le monde, mais c'est vraiment la richesse de notre région, sur tous les niveaux de patrimoine réel et irréel, les festivals, les fêtes, la nourriture, la gastronomie, toute l'histoire. Mais aussi, je crois, comme un Anglais, l'histoire de la France et de l'Angleterre, c'est vraiment... Il y a toujours les choses entre les deux pays. Depuis la guerre de Cent Ans, depuis Guillaume le Conquérant, les deux pays sont vraiment liés ensemble.
Oui, mais outre les guerres, il y a plein de belles choses quand même entre la France et l'Angleterre.
C'est ça, oui. Il y a aussi, par exemple, dans mon premier livre, je parle beaucoup de le commerce du pastel, qui était vraiment important dans notre région. Et le commerce, c'était beaucoup de cette commerce, c'était avec Londres et Anvers. Alors oui, il y a les liens aussi commerciaux aussi aujourd'hui avec Airbus, par exemple. C'est encore un exemple des choses.
Et peut-être
plus pacifique entre les deux pays.
Ce sera peut-être un des sujets de la prochaine conférence sur une invitation de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin. Pour vous rencontrer, vous, de Colin Duncan Taylor, c'est donc ce vendredi à partir de 18h. C'est à la salle des thermes de Saint-Antonin-Neubevel, c'est gratuit. Il faudra présenter son pass sanitaire à l'entrée. Conférence en anglais, à noter. C'est une exception dans le programme de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin pour cette année. Colin Duncan Taylor, merci beaucoup.
Merci.
Les infos à suivre, ce mag sera rediffusé à 17h et à 21h30 à réécouter en podcast sur le site cfmradio.com.